Jonathan, il a trop de personnes à l'intérieur de lui-même.
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Audio et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Julien Doumain. Réalisation signée Olivier Guérin. Et ce soir, Florian Guettet et Philippe Noisette se font face à notre affiche grande de Tsiriaka Arrivel et Vima la Ponce. Actuellement en tournée, tous les spectacles dont nous parlons ce soir sont en tournée, ce qui tombe bien. Le suivant, ce sera Nischlaffen d'Alain Platel, avec une musique et une direction musicale de Stephen Pringles. Et puis le Petit Bain de Johan Hibert viendra conclure cette dispute. Enfin, pas tout à fait. La conclusion, ce sera un coup de fil que Boris Pinault passera à Lou Weifang, auteur de bande dessinée, pour le spectacle Exquise Esquisse dans le cadre du Pulp Festival à la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée. Avant cela, vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler de la retraite des danseurs. Et bien sûr, il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour la représentation de Bâle de Bertolt Brecht, mise en scène par Christine Le Tailleur à la Colline, Théâtre National à Paris. Représentation, place à gagner pour la représentation du samedi 22 avril à 20h30. Et nous ouvrons cette émission avec un double pas de deux, en parlant de Grande, spectacle co-signé par Tsiriaka Arrivel et Vima la Ponce. Et nous serons deux pour en parler, Philippe Noisette et moi-même, Florian Guettet n'ayant pas encore eu la chance, je pèse mes mots, de voir ce spectacle. Il va pouvoir le faire, puisqu'après sa création en région, puis au 104 à Paris, non d'abord au 104 à Paris, où les artistes sont artistes associés. Après une déjà longue tournée, Grande va faire escale 3 semaines au Montfort, à Paris, aussi dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Ville hors les murs. 3 semaines donc au Montfort à partir de demain soir, et puis une route qui va se poursuivre à Strasbourg, Annecy et Lyon avant sans doute d'autres dates la saison prochaine. Alors on connaît bien sans doute l'élément féminin du binôme pour l'avoir régulièrement au cinéma, souvent en short, Vima la Ponce, et puis Tsiriaka Arrivel s'était déjà fait remarquer avec elle, notamment au sein du collectif Ivan Mosjoukin, avec qui ils avaient créé De nos jours, Nuts on the Circus. Très belle surprise de la saison 2012. Vima la Ponce, elle a une pratique en art plastique. Elle a fait le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, mais aussi un an au Centre National des Arts du Cirque, tandis que Tsiriaka Arrivel a lui une formation de musicien et une formation également aux Arts du Cirque. Alors, Grande, qu'est-ce que c'est ? On va sans doute passer un petit moment à essayer de vous le dire.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La revue mix, la revue d'ouverture. Revue 7, revue d'extrait. Revue 6, revue d'histoire. Revue 5, revue d'image. Revue 4, revue neuroménagère. Revue 3, revue d'histoire, déjà vue. La revue qui suivrait, la revue 2, la revue extraite du spectacle, et donc une revue qui a été coupée du spectacle, parce que déjà c'est... La revue 1, dans 1 minute et 50 secondes, revue d'amour.
Je vais pas m'accrocher à toi toute ma vie. Je vais pas monter jusqu'ici tous les jours. C'est maintenant que je suis là. On dirait pas comme ça.
J'ai rien fait, papa. J'ai rien fait, madame, je vous jure, c'est pas vrai, j'ai rien fait. J'ai bien fait, monsieur, c'était pas moi. Française, français, je n'ai jamais rien fait en 5 ans. Viens, reprends.
L'amour, c'est ça. C'est pas un bloc de marbre dressé devant la mer. C'est pas la Marseillaise. C'est toi avec moi. Toi, t'as construit un temple sur une idée de moi. Moi, je suis là, regarde-moi. Moi, je t'aime comme je suis. Ok.
Voilà qui donne une idée, Philippe Noisette, d'une ambiance. Sur le programme de Grande, on peut lire en face justement de genre musical, cirque. Ça me semble grandement réducteur, même si ça n'est pas faux. Musical pour les numéros, pour la revue. Cirque, bien sûr, tous les deux sont des circassiens accomplis. Mais il faudra quand même rajouter peut-être concert, théâtre, musique, danse. Ça embrasse tout ça, Grande, Philippe.
Oui, ça embrasse beaucoup de choses. C'est ce qui fait sans doute que ces deux artistes sont des artistes plutôt rares. On a envie de les aimer, on a envie de passer, on passe presque 2 heures avec eux. On a envie que ça ne se termine pas. Ils disent une chose qui est très 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 jolie, je trouve. Ils disent nous sommes des spécialistes de ce qu'on ne sait pas faire. Parce que je trouve ça assez, ouais, assez comique. Ça dit aussi que ce sont des génies de l'improvisation, des génies du travail en direct, comme vous venez de le dire. Dans ce spectacle, la musique est très très présente. La musique, tout est fait en direct. Ouais. C'est vrai que c'est réducteur de dire que c'est un spectacle de nouveau cirque. C'est un spectacle de musical. Ils parlent eux-mêmes de revue pour jouer sur le mot revue, revoir, refaire, tomber, réussir, reprendre à zéro ou pas. Le spectacle d'ailleurs commence par la fin, d'une certaine façon, avec ce grand numéro de Vima la Ponce.
Mais plus que d'une certaine façon, parce que c'est un spectacle qui se présente comme un spectacle à rebours. Donc, il commence par le clou du spectacle, le dernier numéro de la revue.
Tout à fait. Et une fois que vous avez eu le clou du spectacle, vous êtes donc rassasié et on peut passer aux choses sérieuses, à savoir le spectacle.
Le clou suivant.
Voilà, c'est une série de clous du spectacle. Et surtout, c'est porté par deux artistes qui ont une espèce de véhémence, d'envie d'en découdre, de partager. Ils ne sont plus que deux, hein, puisque vous aviez évoqué le collectif qu'ils avaient vu exploser comme ça il y a quelques années, donc Ivan Mojoukine. Ils ne sont plus que deux, donc c'est une histoire à deux, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de couple, c'est une histoire de rupture, c'est une histoire de retrouvailles, et donc c'est une histoire qui ne finit pas.
Oui, c'est une histoire de série de portées sur la tête aussi. On sait que, et c'était d'ailleurs déjà présent dans notre centre de circus, les portées de Vima la Ponce sont maintenant connues. Donc le clou du spectacle, logiquement, elle associe plusieurs choses. Elle associe les portées, le striptease, qui est aussi une figure importante chez elle. On pourrait peut-être quand même juste un tout petit peu décrire cela, parce que il y a un nombre de couches de vêtements qu'elle doit enfiler, Vima la Ponce. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête à ce moment-là? Un mannequin.
Oui.
Donc sur sa tête, le mannequin est à l'envers, donc c'est comme une image de miroir, comme une sorte de narcisse.
Oui.
Et elle finira aussi nue que le mannequin, mais après avoir enlevé quantité de choses et tout en jouant et tout en chantant. Donc il y a cette série de portées, mais Thierry Acca-Rivel n'est pas en reste, parce que lui, il fait une série de chutes très spectaculaires dans un toboggan qui semble absolument défier les lois de la gravité, dont on se dit la première fois, mais il va se tuer, enfin, c'est pas possible, on peut pas affronter une pente aussi dangereuse. On va voir à quel point, pour lui, elle semble ne pas l'être. En même temps, ça retrouve l'essence du cirque, parce qu'on est quand même là aussi pour voir le trapéziste tomber. Il y a quand même toujours ce plaisir du cirque-là. Alors, ça peut arriver, hein. D'ailleurs, il y a des ratés, on peut reprendre. Vous parlez de musique, on pourrait peut-être aussi s'arrêter un moment là-dessus. C'est Eric Acca-Rivel est vraiment un très beau musicien, mais Vima la Ponce est une très belle chanteuse. Il y a des très 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 belles chansons. Moi, j'aimerais que la bande son du spectacle soit disponible, voire éditée. On lance un appel, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas les chansons que vous avez envie d'écouter?
Si. Surtout si Vima la me les susurre à l'oreille. Non, mais c'est.
Non, mais là, vous allez un peu loin.
Non, mais c'est un travail. Voilà, le travail musical, l'accompagnement qui puise aux fanfares, qui puise à la musique électronique, mais aussi à la musique électronique des premiers temps. C'est une telle richesse de proposer tout cela durant un spectacle et de le faire comme je le disais en direct. C'est vraiment un cadeau. Vous offrez un concert qui se transforme en cirque contemporain, qui se transforme en performance, qui devient une histoire de une petite pièce de théâtre comme ça. La musique, oui, n'a jamais été aussi présente chez eux.
Ouais,
dans Mojoukine, on utilisait plutôt des bandes enregistrées. Et là, il y a un plus, je pense. Le spectacle gagne vraiment une autre matière, qui est cette matière musicale. Pour revenir à ce que vous disiez sur les prouesses de Harry Vell, il faut dire que on a l'impression que ce qui est important pour lui, ce n'est pas de réussir, on va dire, le numéro. C'est ce qui précède le numéro et ce qui va succéder au numéro. Et donc, entre les deux, il glisse ce toboggan, il glisse ses échelles, il glisse beaucoup de choses. Et je trouve ça assez intéressant. On a dit tout à l'heure qu'on commençait par le clou du spectacle. Et là, Thierry Acca, Harry Vell, lui, fait en sorte que le numéro soit comme ça dans un temps différent, puisqu'on le voit le préparer, on imagine ce qui va se passer, mais on n'imagine pas forcément que le numéro va succéder et va être comme ça enrichi par une autre scène. Je trouve ça vraiment, c'est une façon de laisser le spectateur en alerte. C'est peut-être encore plus beau que les doubles saltos, que les trapézistes et tout ce qui,
existe. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que vous le disiez aussi, performance et théâtre, parce qu'il y a aussi des séquences où Wim Alaponce fait le catalogue des émotions avec un texte dit à toute allure, et en changeant toutes les 5-10 secondes d'émotion, on pleure, on rit, on crie, on susurre à votre oreille, mais à l'oreille de tous les spectateurs en l'occurrence, bon, qui est quand même absolument aussi éblouissant de brio et de technique, parce qu'effectivement, on pleure avec elle, on rit avec elle, enfin, et tout ça passe très très vite, mais c'est vrai que le fil, en tout cas, conducteur, narratif, c'est évidemment cette histoire de couple, et là aussi, ça pourrait paraître extrêmement simple, mais tout d'un coup, l'espace de la cuisine qui va être inventé sur le plateau, l'espace de la chambre à coucher, cette porte à laquelle on s'accroche, les engueulades, les retrouvailles, l'amour, le désamour, sont des choses, mais qui vont toujours aussi à toute allure, parce qu'on a entendu, il y a un compte à rebours entre chaque numéro, où les interprètes et il faut signaler aussi tous les régisseurs plateaux et toutes les équipes qui réinstallent et qui réagencent l'espace à chaque fois. Ça va tout le temps à fond. À fond, c'est-à-dire que ça commence avec le pied bloqué à fond sur l'accélérateur et ça n'arrêtera pas pendant 2 heures.
Oui, on voit à la fin du spectacle la fatigue accumulée. On a l'impression qu'ils ont perdu sous nos yeux 1 kilo en transpirant, en courant et autres. Vous parliez tout à l'heure du texte selon Wim Alaponce. Elle dit l'empêchement de la parole est ce qui m'intéresse plus que l'histoire elle-même. Et c'est vrai que dans l'empêchement, il y a aussi la succession de micro-histoires. Elle est incroyable. On l'a vu au cinéma, pas mal. Je pense que les réalisateurs n'utilisent pas encore 100% de ses capacités.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et là, on voit l'étendue de ce talent qui n'est pas un talent qui va envahir et déborder sur le talent de Thierry Acca Harry Vell. Il y a vraiment une vraie complicité. Il y a aussi des tiraillements. Je trouve ça très très intéressant, cette espèce de... C'est un spectacle qu'ils ont créé tout seuls. Quand je dis tout seuls, ils ont
en
fermé la porte...
En résidence au 104, faut le rappeler.
Ils ont fermé la porte du studio, ils n'ont laissé personne venir, à part les techniciens qui travaillaient avec eux. Et cette façon de dire, on prend sur nous, on fait un spectacle, si on se plante, on l'assumera seul, je trouve que c'est une façon de voir le spectacle vivant aujourd'hui qui fait plaisir. Voilà, le résultat est là. C'est l'un des très très beaux spectacles de cette année. Et elle reste encore quelques mois. Je pense qu'on aura du mal à faire plus grand que grande.
Ouais, on est d'accord. Et puis effectivement, quand ça réussit, le bouche à oreille est très rapide. Je pense que cette saison, c'est vraiment le spectacle dont on a le plus parlé entre soi, ce qui fait que... Alors, je l'ai vu effectivement le premier soir, je crois, au 104. Je me demandais physiquement comment ils pourraient jouer 3 semaines de suite. Je me disais, ça me paraît tout à fait impossible. Bon, bah, depuis, ils sont retournés, puis ils seront à nouveau présents à partir de demain au Montfort pour 3 semaines. Mais dépêchez-vous de prendre des places, où que ce soit, à Paris ou ailleurs. On vous a convaincu, Florian Guettet ?
Ah, mais je vais y courir.
Ah bon, très bien. Parce que grand, donc, de Thierry Acca, Harry Vell et Wim Alaponce, à partir de demain et jusqu'au 6 mai au Montfort à Paris, c'est dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Ville hors les murs. Et puis ensuite, 18 et 19 mai au Maillon à Strasbourg, 23 et 24 mai à Bonlieu, c'est la scène nationale d'Annecy. 15, 16 et 17 juin au Subsistance à Lyon, avant d'autres dates à venir la saison prochaine. Moi, je crois que le seul vrai conseil à donner concernant Grande, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que si, c'est pas d'aller voir le spectacle, c'est d'aller le voir plusieurs fois. Parce qu'on ne l'a jamais épuisé.
J'y retourne.
Ouais,
oui. Ouais.
On a très envie d'y retourner. Grande.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Alain Platel, Joanne Hibert et Louis Fang. Tout d'abord, nous suivons Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Et bonsoir, Arnaud.
Ma question des adieux ce soir à propos des adieux de Jérémy Bellingard. Que veut dire une génération en danse?
Oui, vous le savez, l'annonce a été faite par l'Opéra de Paris le 31 mars dernier. Ce sera le 13 mai que Jérémy Bellingard donnera son spectacle d'adieu pour un solo sur une musique de Keishiro Shibuya dans le spectacle Merce Cunningham, William Forsythe. Alors, on n'a pas encore évidemment le compte-rendu du spectacle et les portraits réactualisés pour voir le regard que portent les critiques sur ses 20 ans de carrière exclusive du danseur à l'Opéra de Paris. Mais la première chose que l'on peut dire, comme le fait remarquer France Musique, c'est effectivement, vous parlez de génération, que ce départ ouvre une série d'autres départs, toute une génération née en 1975 ou autour et qui atteindra les 42 ans fatidiques. Laetitia Pujol cette année, Marie-Agnès Gillot et Karl Paquette l'année prochaine. Évidemment aussi, on peut parler d'Aurélie Dupont, l'ancienne compagne de Jérémy Bellingard, qui a fait ses adieux, elle, en 2015. Une génération donc d'abord classique, évidemment, est perçu comme tel. C'est bien le cas pour Bellingard. Une fois nommé premier danseur en 2001, puis étoile en 2007, il n'a pas fallu longtemps à la presse pour s'apercevoir de ses qualités athlétiques, à forte personnalité, note très tôt René Sirvin dans le Figaro. Présence de charme et faiblesse d'exécution, dit cependant Dominique Frétard dans Le Monde à l'époque. Un visage d'acteur aussi, il a un regard presque de statue antique et une brillante technique, rétablit quelques années plus tard René Sirvin. Il est vif et gracieux, ses qualités techniques comme étoile ne sont évidemment plus l'objet de critiques. Son interprétation, elle, connaît, et c'est normal, des débuts à fortune divers, assez caricatural dans Caligula de Nicolas Leury, juge Sophie Le Sort à l'époque, on n'était qu'en 2005, puis béni par Vénus comme chorégraphe dans un article d'Ariane Bavelier sur Bye Bye Vénus, qui est un spectacle chorégraphié par Jérémy Bellingard, où la danse, je cite Ariane Bavelier, ne se donne pas comme virtuosité mais épouse les couleurs des sentiments qui passent entre les êtres. On était en 2011. Mais cette génération 75, donc formée à l'excellence et parfois à la dure, se démarque aussi par son attrait prononcé pour les formes et techniques contemporaines. Marie-Agnès Gillot a été la première étoile à Paris à être nommée après avoir dansé sur une pièce contemporaine. Tous ont accueilli aussi avec intérêt, on le voit dans les répétitions, Saburo Teshigawara ou Wayne McGregor. Et peut-être pour comprendre cette génération, vaut-il mieux en effet passer par Saburo que par Nureyev. You have to forget in order to create. Vous devez oublier de façon à être capable de créer, dit le chorégraphe japonais en 2013. D'ailleurs, Jérémy Bellingard revendique aussi cette transversalité, disons, et la recherche d'une forme de spiritualité technique dans la danse. Je le cite, on est vraiment dans des sensations, dans des endroits, il parle de Saburo, et des coins qui n'ont pas été dépoussiérés depuis très longtemps, donc on va chercher dans ces coins obscurs des déséquilibres, on cherche au moins des sensations. Ces mots résonnent donc comme un cri du cœur, un peu comme ceux de Paulina dans le film auquel il participe justement comme initiateur de la danseuse. J'en ai assez d'exécuter bêtement les chorégraphies des autres, dit-elle, je veux apprendre à regarder le monde. À ce titre, il est significatif, là c'est intéressant, que Jérémy Bellingard ait choisi pour sa sortie une improvisation de 20 minutes, 5 représentations en tout, et pour la première fois, je crois, ce sera une sortie dans le style contemporain. Également, Ariane Bavelier dans le Figaro en 2011 parle d'un homme qui n'est pas un paradoxe près, un chien fou, un paradoxe. Alors Jérémy Bellingard, un ingénieur du corps spirituel peut-être, ou le représentant le plus actif d'une génération presque en lutte contre l'opéra. Pour Aurélie Dupont, peut-être pas, mais pour Bellingard, il y a des indices. Un soupir quand il doit retourner dans son palais doré, il l'appelle comme ça, après avoir travaillé avec les 5 danseurs de Bye Bye Vénus, ou qu'il évoque ses kilomètres de chorégraphie écrite depuis 6 ans, je le cite, « Je ne voudrais surtout pas créer pour l'Opéra de Paris, j'ai besoin d'horizon. Et puis comment voulez-vous que des danseurs qui me connaissent depuis 20 ans me prennent au sérieux ?» Alors, la génération 75, évidemment brillante, a-t-elle été une génération d'étoiles enfermées?
Ah, c'est ça la question. Alors, Philippe Noisette, qui déjà s'apprête à pleurer tous ces départs qui s'annoncent de la génération 75, sur Jérémy Bellingard, portrait contrasté. Hein.
Oui, contrasté. J'avais moi-même fait un portrait de Jérémy Bellingard avant qu'il ne soit nommé étoile. Et je voyais, alors il est musicien, il aime la guitare, et je voyais qu'il avait beaucoup d'envie, qu'il voulait les exprimer. Petit à petit, j'ai vu que tout ceci s'éteignait au fur et à mesure, et je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas ce qu'il deviendra comme chorégraphe ou la suite de sa carrière, mais je trouve ça un petit peu dommage. Il s'est un petit peu enfermé dans ce côté nonchalant. On le voyait un petit peu moins. Il n'avait pas d'envie. Il ne provoquait pas des choses, des rencontres avec peut-être la compagnie elle-même. Je trouve que cette fin est vraiment en demi-teinte. Comme ça. Je trouve ça très intéressant qu'il choisisse une improvisation, qui plus est avec un artiste japonais assez contemporain, très, très branché sur les images de synthèse, le virtuel et autres. J'espère qu'on le verra, noyé dans ces images comme je l'avais vu il n'y a pas très longtemps à la Maison du Japon. J'espère qu'on le verra vraiment. Mais c'est vrai que c'est une génération qui n'est pas la génération des Baby Nourieff, comme on l'a dit à propos d'autres danseurs plus âgés, mais qui est une génération, ils n'ont pas forcément des liens entre eux, hein, il faut le dire, ils n'ont pas travaillé ensemble tous, les uns et les autres. Mais c'est toujours effectivement une page qui se tourne. Voilà.
Quel regard avez-vous, Florian Guettet, sur ces retraites?
En soi, pas grand chose, en fait, à dire. C'est-à-dire que le départ d'un pur produit de l'institution, comme les Jérémy Bellingard, et qui a passé toute sa vie, qui a été formé à l'opéra, qui a passé donc toute sa vie à l'opéra, et qui maintenant est remercié par l'opéra, à qui on rend hommage, en soi, ça m'émeut pas outre mesure. Je trouve ça absolument normal dans son. Mais c'est vrai qu'il avait cette particularité d'être à la fois déjà un danseur très athlétique. Hein. Aujourd'hui, on a Hugo Marchand, qui est aussi un grand gaillard, quoi, on va dire, dans la danse, et ça fait du bien de briser un peu cette uniformité parfois qu'on a des corps. Et puis c'était quelqu'un qui a essayé des choses. Effectivement, on parle de Bye Bye Vénus, qui était sans doute pas une pièce très très réussie, enfin pas outre mesure, mais en tout cas qui avait déjà le mérite de le faire aller ailleurs. Et puis il y avait aussi ses solos Aphex Twin et David Bowie, qui étaient quand même des pièces que moi j'ai pris plaisir à regarder. À part ça, effectivement, la question qui se pose, ça va être de cette génération. Est-ce que lui peut être une image de cette indiscipline qui commençait à venir? Moi, je sais que j'ai fait un lapsus en fait en écrivant mes notes. J'ai écrit Jérémy Bellingrat au lieu de Bellingard. Et finalement, je me dis, quand j'ai relu un peu des choses qu'a dit Brigitte Lefebvre dessus, etc., qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une forme de fascination pour ce corps assez technique, qui pouvait avoir véritablement cette technique, et il a bien fait. On a bien fait corrigé dans les journaux, mais aussi une forme d'insoumission à l'autorité qui moi me plaît plutôt, parce que finalement le défi qui va venir là sur la nouvelle génération, c'est est-ce qu'on va enfin réussir à sortir des carcans et du conservatisme de l'opéra, et c'est sûr que Aurélie Dupont est peut-être pas le meilleur signal pour ça. Et quand je lis donc là les nouveaux, quand j'ai lu un peu les dires des nouveaux arrivants, Germain Louvet, Léonore Bollack, Hugo Marchand, Joshua Offalt, finalement on retrouve un petit peu, enfin c'est plus de prolongement on va dire que de rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une ouverture sur le contemporain, mais enfin, c'est quand même très cadré, très jalonné, très limité, souvent à Wayne McGregor, à Forsythe, à Jerry Killian, à des gens comme ça. Donc, en tant que spectateur, je suis en droit aujourd'hui d'attendre un peu plus d'audace.
Xavier Martinet ?
Oui, précisément, vous parlez d'Aurélie Dupont. Je pense que c'est important de faire le parallèle entre leurs deux parcours, moins par leur histoire personnelle que par leur histoire au sein de l'institution, où on voit qu'Aurélie Dupont, une fois qu'elle a quitté l'institution, l'institution, elle semblait déjà beaucoup le regretter au moment même. Et puis elle est devenue directrice de la danse, si je ne me trompe pas. Donc elle a repris le rôle de Brigitte Lefebvre et elle l'a dit plusieurs fois en interview. Je vais reprendre le style classique. J'attends des danseurs qu'ils soient respectueux, évidemment très bons danseurs, mais qui respectent aussi la hiérarchie. Là-dessus, je me demandais s'il y avait effectivement aujourd'hui, avec cette génération, eu des frictions ou peut-être l'amorce d'une véritable lutte qui va se faire au sein de l'Opéra de Paris sur ce plan-là. Disons l'intégration du contemporain et des désirs de contemporanéité des danseurs.
Parce que Arnaud vous disait tout à l'heure la génération Baby Nouriev, mais c'est aussi celle qu'on appelait la génération Mille Pieds. Donc il y avait, moi il me semble que ce débat-là, il a été résolu du moment où on a congédié ou en tout cas où Mille Pieds est parti. Quoi, je veux dire son départ disait déjà était très significatif sur ce point de vue-là. Alors même si après Brigitte Lefebvre a dit mais non, mais j'ai fait venir Abramovic, j'ai fait venir Kirchmaker, évidemment, j'ai fait venir Sidi Labi Cherkaoui. Donc il y avait quand même voilà une sorte d'audace revendiquée. Moi, continuons l'effort, quoi. Et j'attends peut-être maintenant de la nouvelle génération qu'elle reprenne le relais là et qu'elle puisse imposer un peu plus ses choix.
Philippe Noisette.
Peut-être une nouvelle génération qui sera moins. Je crois que vous parliez de palais doré, oui. Qui ira voir ailleurs, parce que c'est vrai que la maison opéra peut être une bulle. Certains danseurs sont contents, hein, ils vous le disent. Moi, je suis très bien là. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. On leur reproche parfois d'ailleurs de ne pas se confronter avec non pas l'excellence du Mariinsky ou du Bolshoï ou autre, mais simplement d'aller danser ailleurs, de rencontrer d'autres techniques. Je pense que cette génération, notamment quelqu'un comme Hugo Marchand ou Léonore Bollack, regarde ailleurs. Ils vont voir des expositions, je les croise parfois, voir des spectacles. Alors après, l'institution, elle est ce qu'elle est. Elle peut briser, elle peut être un carcan, on peut s'en échapper. Ils ont une carrière, ils ont 20 ans de carrière devant eux, au titre d'étoile, c'est beaucoup. Rester au sommet, c'est quasiment impossible. Jérémy est un exemple. On a des hauts et des bas, et à la fin, on a de plus en plus de bas. Voilà, mais l'institution... C'est par excellence, c'est quelque chose qui vous maintient dans une non pas dans une prison, mais dans un état de pensée.
Avec cependant, juste une dernière remarque sur cette génération. Vous parliez de diversité des corps tout à l'heure. C'est étonnant de voir, si on en prend quatre, simplement Jérémy Bellingard, Marie-Agnès Gillot, Aurélie Dupont et puis Nicolas Le Riche, qu'à quatre, aucun n'a un corps semblable. Ils ont tous, par exemple Marie-Agnès Gillot, très athlétique également, mais différente de Bellingard, avec une plus forte charpente, on pourrait dire. Aurélie Dupont, très classique dans son corps et dans sa tenue. Et puis Nicolas Le Riche, beaucoup plus élancé que Jérémy Bellingard aussi, peut-être un peu plus souple, mais je ne les connais pas assez pour en dire plus.
Bon, nous regarderons les corps et nous regarderons les programmes aussi, évidemment, des saisons à venir. Et puis on ira voir les adieux, les uns après les autres, oui. Peut-être. Hein. Bon, oui. Avec des mouchoirs. Le deuxième spectacle à notre affiche ce soir, c'est Nicht Schlafen d'Alain Platel sur une musique conçue, choisie, aussi parfois composée par Stephen Pringles, même si c'est Gustav Mahler qui occupe une place essentielle dans la partition. Alors cette fois, c'est moi qui n'ai pas vu le spectacle, donc le pas de deux, ce sera Florian Guettet, Philippe Noisette. Je peux simplement dire que le spectacle va faire la réouverture de la MC 93 à Bobigny, après 2 ans de travaux. Dire aussi que Florian Guettet, vous l'avez vu à l'Arsenal, à Metz.
Très belle salle.
On en reparlera d'ailleurs bientôt dans la dispute. Que le spectacle sera aussi donné à la scène nationale d'Albi les 28 et 29 avril. Ensuite, il y aura Wiesbaden, Porto et puis Bobigny. D'autres dates en France, en Europe que je donnerai tout à l'heure. Dire encore que mon niveau d'allemand atteint son maximum quand je m'avance à dire que le titre signifie « pas dormir ». C'est bon ? Oui. Puis dire enfin que c'est autour d'une sculpture de Berlin de Brücker, qui est une plasticienne que je trouve toujours fascinante, que cette pièce chorégraphique se déploie et se resserre, 9 danseurs étant ici sur le plateau.
Thank you.
Voilà, pour quelques mesures de cette bande son, si je puis dire, de Nils Schlaffen, pièce d'Alain Platel, en grande tournée en France et en Europe, du coup, Florian Guettet va commencer à nous donner son sentiment sur cette pièce.
Oui. Alors, pour faire un jeu de mots sur le titre, c'est difficile de dormir devant une pièce comme celle-là. Elle est très énergique, très, très violente. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur scène? Effectivement, 9 interprètes qui restent du début à la fin, sauf quand ils vont faire quelques excursions, mais il n'y a pas un jeu de coulisses ou d'hors scène. Les 9 interprètes donc sont réunis autour d'une forme de cérémonie un peu sacrificielle qui rappelle évidemment le sacre du printemps, autour d'une sculpture donc d'un amas de cadavres de chevaux réalisé par Berlin de Brucker, absolument remarquable, avec derrière un rideau tendu qui est en fait une peau, une forme de peau déchirée. Cette communauté-là se trouve voilà dans ce lieu un peu difficile à situer. On ne sait pas si on est donc au début de l'humanité, dans quelque chose de très archaïque, ou au contraire dans quelque chose de très actuel, voire une fin du monde. Il y a voilà une forme de d'indéfinition, on va dire, de ce lieu-là. Alors il n'y a pas de progression narrative à proprement parler. Toutes les séquences vont s'enchaîner les unes à travers les autres. On a plutôt l'impression de tourner en rond, ou d'atteindre comme une sorte de point de non-retour. Alors au début, on a bien un début de narration avec un patriarche qui va arriver, mais tout ça va être vite brisé par une sorte de bagarre générale, une sorte de combat entre tous les membres de la communauté, où ils vont se déchirer au sens propre et figuré, puisqu'ils vont se disputer, mais que aussi ils vont déchirer tous leurs vêtements. Et à partir de là, on va comprendre qu'on va assister à une forme de démonstration d'énergie, très typique de la danse flamande, hein, mais qui se donne ici avec beaucoup d'agressivité, de violence et de débordement affectif, non fin, hein, c'est important, c'est vraiment des coups réels, des crachats, on va se fouetter d'une façon tout à fait concrète. En fait, c'est un spectacle sur la régression. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça, la régression, ou en tout cas, la régression au corps, à un moment où, précisément, dans notre société, on se pose la question de savoir où est le nôtre, où est notre propre sensualité, quand on se dématérialise, quand on est manipulé par l'industrie, vidé de notre libido, etc. Donc, finalement, il y a un réinvestissement là, du corps simple, dans sa pure sensation, de gens qui vont donner, finalement, leur dernière force, ou jeter leur dernière force dans la bataille. Alors tout ça est très très intense, avec une énergie nerveuse, compulsive, et qui alterne finalement des moments de virtuosité, des moments de grotesque. Hein. Et ça c'est vraiment le marqueur finalement de cette écriture-là, quelque chose voilà, de proche de la farce ou du gag, et quelque chose de voilà des moments de synchronisation tout à fait gracieux.
Je reviens vers vous bien sûr, Florian Guettet, mais la lecture à présent de Philippe Noizet, de cette pièce... vous n'avez pas dit combien de temps ça durait, Nils Schlaffen
1h45.
Non, mais parce que c'est important par rapport aux pièces chorégraphiques. Il y a une densité du temps qui est quand même particulière. Donc 1h45, effectivement, oui. c'est quelque chose qui est important pour le spectateur de connaître cette durée, Philippe.
Oui, c'est une pièce très dansée. Hein. Alain Platel revient, on va dire à la danse. Il y a beaucoup de spectacles, le dernier spectacle où le texte était présent, on jouait de la musique. Il y avait des vrais moments un peu de flottement comme cela.
Il y avait des fanfares. Il y avait les gardenias, il y avait beaucoup de choses très différentes.
Beaucoup de choses. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de narration, ce qui est vrai. Et pourtant, ce spectacle nous donne l'impression de nous raconter une histoire, de nous prendre comme ça par la main pour nous raconter une histoire qui n'est pas forcément une histoire très, très agréable à entendre, si je puis dire. C'est vrai qu'il y a une vraie violence, une violence qui est chorégraphiée. Vous disiez, on se crache, on se déchire. Il y a notamment une scène qui est assez dure à la fin, qui dure longtemps. Une scène où un des danseurs est un peu pris à partie, ça serait une espèce de bouc émissaire, plutôt qu'un sac ou plutôt qu'un rituel. Je parlerai du bouc émissaire qui pourrait renvoyer aux migrants dans la rue qu'on va poursuivre. Voilà, on pourrait penser à ces choses-là. C'est un spectacle très très actuel. Alain Platel dit qu'il utilise cette musique parce que la musique de Mahler, même s'il n'y a pas que de la musique de Mahler dans le spectacle, c'est une musique de début de siècle, un moment où on bascule. Et il dit, mais aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, ça bascule aussi. Il cite à la fois les changements au niveau politique. N'oublions pas qu'il est flamand, enfin belge-flamand. Donc c'est aussi une région très très compliquée. Il monte assez souvent au créneau pour défendre notamment la diversité, entre autres choses. Ce spectacle est riche de tout cela. Ça en fait un spectacle assez beau. et en même temps très inconfortable pour le spectateur. Et ce n'est pas une question de durée, je pense.
Oui, oui.
C'est plus ces danseurs nous renvoient. Ces danseurs qui sont formidables en plus, hein, il faut le dire.
Florian.
Oui, alors sur ce choix, ce parti pris de Mahler, effectivement, il y a une forme de résurgence ou de rappel de cet esprit début de siècle ou fin de siècle, hein, selon
ouais, où on se passe
par rapport au point de bascule. Alors évidemment, Platel se réfère à un historien, Philippe Blom, pour parler de ça, mais ça rappelle le malaise de Freud, ça rappelle le nihiliste décadent chez Nietzsche. Enfin, il y avait effectivement toute une littérature qui aujourd'hui peut nous expliquer ou nous aider à avoir des clés de lecture pour cette pièce. Moi, je l'ai lu véritablement avec ce bagage-là, même si finalement, il m'a peut-être manqué, ou en tout cas j'ai trouvé que l'absence de discours autour de ça était un peu inconséquente. Il y avait une forme d'appel comme ça à Mahler. Déjà Mahler, il en fait l'inventeur du sample, ce qui reste quand même un peu discutable, tout ça pour pouvoir effectivement marier avec des chants polyphoniques congolais, ce qui est plutôt réussi, à ma grande surprise. J'avoue que sur le papier ça me séduisait pas, mais finalement j'ai trouvé que dans le spectacle ça passait tout seul, même si là on a tendance à un peu focaliser là-dessus, et puis que ça, en fait ça dure 10 minutes hein, sur les 1h45, donc c'est pas non plus, c'est pas la couleur en tout cas musicale ou la tonalité affective de la pièce. Mais en revanche, c'est vrai que en fait, je m'étais fait cette réflexion aussi sur la dernière pièce de Charmatz, Danse de nuit, Ronde de nuit, où finalement il y a une forme de comment répond-on à la violence sociale, politique, historique, eh bien par une fuite en avant dans la bestialité, dans la régression, etc. Et je suis pas sûr moi que ce soit la réponse que j'ai envie de voir. Je me demande si à force d'esthétiser la bestialité, on ne légitime pas un discours qui renverrait à la bêtise, c'est-à-dire en ce sens premier, au sens presque où Bernard Stiegler l'emploie. Donc voilà, moi je suis resté un peu, c'est-à-dire quand on lit aussi ces interviews, il reste dans cette forme de vacances-là du discours. Moi c'est vrai que j'ai besoin de m'appuyer sur le discours et d'être moins dans la démonstration chorégraphiée. Et puis il y a aussi ce... Il dit, finalement, dans l'interview qui accompagne les documentations qu'on reçoit, il nous dit, mais finalement, regardez le casting, pour moi, il n'est pas politique, etc. En fait, le casting, c'est vrai qu'il a quand même deux particularités. Il n'y a qu'une seule femme. Donc, on pourrait se dire que ça rappelle un peu l'élu du sac, etc. Mais elle est présentée dans une façon, même si c'est une très jolie danseuse, hein, vraiment, mais elle est présentée dans une force, une énergie assez masculine. Donc, finalement, il y a une forme de survirilité jouée là-dedans qui, moi, me pose question quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser le corps violent sans le renvoyer à ses carcans masculinistes, on va dire. Et puis, il y a effectivement cette présence de deux danseurs africains qui étaient très, très... étrangers à la culture de Mahler qu'on leur fait chanter, hein, puisqu'ils chantent, les danseurs chantent des passages comme ça, des extraits de musique. Et je trouve pas ça si innocent. Donc la stratégie du retrait ou l'absence d'engagement ou de position, moi m'a un peu perdu. Et du coup, je me suis retrouvé et c'est la même chose avec cette alternance aussi de grotesque et de virtuose, c'est-à-dire qu'il est tellement équilibré qu'il me manque peut-être un point de vue plus assumé.
Philippe Noisette, par rapport à ces interrogations riches,
oui,
soulevées.
Peut-être dire aussi, puisqu'on parle de ce rôle féminin, les hommes sont parfois très, très sensuels. Il y a une vraie complicité. Je dirais pas qu'ils sont féminins, mais ils ont une part de féminité. Donc, on ne peut pas non plus tout réduire à cette espèce de violence.
La sensualité n'est pas que féminine, vous voyez. C'est pas parce qu'on va mettre de l'homo-érotisme.
Non, mais c'est
pas suggéré qu'on est dans le féminin.
Non, ce n'est pas de l'homo-érotisme. C'est pour dire aussi que si cette femme qui est présente, qui est effectivement la seule et donc sur laquelle elle regarde, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est une mère? Est-ce qu'elle est une fiancée? Est-ce qu'elle est une sœur? Il arrive à détourner aussi le rapport des hommes entre eux. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il dit souvent, je fais une danse bâtarde. C'est une très belle définition de sa danse. Parce que sa danse a des origines complexes, parfois revendiquées, parfois c'est quelqu'un qui a vu Bina Bausch, c'est quelqu'un qui a lu des textes politiques notamment, c'est quelqu'un qui a un goût pour la musique. Il faut dire que Mahler, ce n'était pas son goût personnel, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Bach. C'était une proposition de Gérard Mortier et au départ ça ne l'a pas spécialement intéressé, donc je trouve ça d'autant plus intéressant d'aller vers quelque chose qui est non pas un univers inconnu, mais un univers qui ne l'inspire pas, qui ne provoque pas des éclairages. Et il faut dire aussi que la danse d'Alain Platel De spectacle en spectacle, il y a quelque chose qu'on retrouve, et c'est vrai que peut-être les réponses que vous vous posez, enfin les questions que vous vous posez, vous les retrouvez dans des spectacles précédents. Alors il faudrait voir tout Platel pour comprendre mieux ce spectacle-là.
Oui, mais si c'est un spectacle qui nous parle d'aujourd'hui sur la question du point de vue, simplement l'esthétisation, si j'entends bien, de la bestialité, de notre devenir, de notre redevenir, si je puis dire, bestial. Est-ce que vous, ça vous a posé question, Philippe Noisette?
Je n'ai pas vraiment pensé
pas
à cette non. Même si c'est une évidence, on peut l'interpréter comme cela.
Dernier mot, Florian Guettet.
Ouais, mais juste pour tempérer quand même ma critique, parce qu'il y a quand même une grande force, c'est la façon très juste qu'il a de traiter la communauté, le collectif, le groupe. C'est-à-dire que le groupe est tout le temps sur scène, il y a des duos, il y a des solos, mais les autres personnages sont toujours pas très loin en tant que spectateurs. Et puis à la fin, il y a même des excursions donc dans la salle, à même le public. Et finalement, est-ce que la réponse aussi à ce et à cette violence et à ce manque de corps, c'est pas aussi de faire bloc, de faire corps dans le sens du social? Et là, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez juste dans cette façon de réunir et de faire sentir le poids et le sens du collectif.
Juste une petite chose, un spectacle d'Alain Platel qui s'appelait Taberbach travaillait justement sur le côté les individus sans l'idée de la communauté. Je trouve que ce spectacle-là est un peu un spectacle en miroir de Taberbach. C'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Nischlafen d'Alain Platel sera à la scène nationale d'Albi les 28 et 29 avril, à la MC 93 de Bobigny du 23 au 27 mai, au KVS à Bruxelles du 30 mai au 3 juin, à la scène nationale de Nantes ensuite les 8 et 9 juin, 12-13 juin à l'Archipel à Perpignan, puis poursuivra sa vie en tournée à Zurich, Amsterdam ou encore Londres.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette dispute, spectacle vivant ce soir, un spectacle qu'on peut aller voir à partir de 2 ans. C'est indiqué sur un programme, ce n'est pas si fréquent. Il s'agit du Petit Bain de Joanne Hibert et Yann Rabalante, créé au Théâtre Nouvelle Génération à Lyon au mois de février, qui se donne en ce moment au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 23 avril, avant la Courneuve, Pierrefitte sur scène, Avignon en juillet. D'autres dates viendront. Rémi Barre et Samuel Watts sont les interprètes en alternance de ce très court spectacle, 30 minutes, qui va voir un personnage jouer avec ce qui est au départ un cube de mousse dans lequel il va plonger, qu'il va découper, avec lequel il va jongler, qu'il va sculpter, dont il va explorer les différentes potentialités, le tout sans aucune parole. Petit Bain, alors quand même un mot pour dire que vous avez sans doute comme moi pensé au spectacle de Mathilde Monnier, Dominique Figarella.
Sopéra,
jeu de mots sur soap opéra, savon et opéra, qu'on a vu notamment au Centre Pompidou à Paris, comme élément central, cette mousse manipulée par, qui elle arrivait au fur et à mesure et manipulée par différents danseurs. C'est une pièce qu'on n'a pas beaucoup revue, donc petit salut à ces artistes tout d'abord. Alors c'est forcément une expérience particulière, parce que nous étions dans ces représentations avec un très jeune public. Hein, ce sont des matinées, alors vraiment, le mot est juste, parce que nous l'avons vu à 10h30 du matin, par exemple. Nous étions le même jour, Philippe Noisette, au milieu d'une assistance dont nous avons singulièrement élevé la moyenne d'âge.
Oui, je dois dire. voilà, nous connaissions les soirées mousses, donc maintenant nous connaissons... Et Mathilde Mousse, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de parler d'un spectacle qui s'adresse à un jeune public qui n'aura peut-être jamais vu de spectacle du tout. Hein. Mmh. Je sentais dans la salle que c'était vraiment une première fois pour certains. Donc il faut retenir leur attention, ce qui est pas évident. Mmh. Il faut dire que l'artiste que nous voyons sur scène est d'autant plus méritoire que les enfants se lèvent, parlent, voilà, il y a des
commentent,
tout à fait. C'est très beau d'ailleurs, les petits commentaires.
Il a froid.
Ouais, il a froid, ou c'est fini, ou je peux aller faire pipi. Voilà, ouais, bon, c'est un peu ce genre de choses. c'est vraiment compliqué de penser à un spectacle qui est à la fois une histoire qui n'y est pas, puisque les histoires sont distribuées à la fin du spectacle. C'est à nous d'imaginer l'histoire.
Il y a un petit livret qui nous est donné avec des courts textes.
Avec un très joli texte de Marine Imier, Miss Mousse et Docteur Mystère. Je ne retrouve pas vraiment dans le spectacle, alors même que le metteur en scène et auteur dit pour moi c'est un spectacle de théâtre comme les autres, ou presque, je ne retrouve pas cette petite histoire qui me permettrait de rentrer dans la mousse, si je puis dire. Et je pense que les enfants à côté de moi étaient un petit peu perdus aussi, parce qu'il y avait, une fois que vous avez vu la mousse, qu'on en fait des petits morceaux, qu'on s'amuse avec, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Mais les idées visuellement, c'est assez riche comme matière, même si c'est volatile. Je ne sais pas si on dit que la mousse est volatile, mais c'est une tentative en tout cas.
Florian Guettet, comment est-ce que vous avez vécu cette représentation du petit bain ?
Un dernier élément, c'est vrai que cette question de la plasticité de la mousse est l'élément central du spectacle. Alors, il en fait beaucoup de choses, effectivement. C'est une matière intéressante parce qu'elle est très, très modelable, en fait. Elle est à la fois très fragile, mais incassable. Donc, ça lui donne quand même une sorte de caractère un peu magique. On a envie d'y croire. Et du coup, quand il y a la prestidigitation, quand il y a du jonglage, quand il y a la pantomime, on y accède assez volontiers. Après, c'est un spectacle qui peut-être peine à renouveler ses actions. C'est-à-dire que effectivement, moi je suis pas retombé en enfance, parce que tout ce dont j'étais en droit tout ce à quoi j'étais en droit de m'attendre est arrivé. Il y a une forme comme ça de manque de surprise. Après, c'est très bien réalisé, on est sur quelque chose d'assez onirique, d'assez poétique. Les enfants effectivement sont très présents, très impliqués, donc c'est plutôt bon signe. Les parents sont en général se reposent, je crois, donc ils sont plutôt silencieux, mais ils ont l'air assez captivés. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il y a de gros effets, pas de gros effets, il y a des effets spectaculaires, avec la mousse qui se découpe. En fait, on a une cage au départ qui ressemble à un module d'air de jeu, pour enfants, dans lequel on met normalement les balles, les bains de balles, les bains de boules. Et puis on l'ouvre et ça devient un décor, un paysage, c'est astucieux, quoi. Mais finalement, les enfants, là où ils réagissent, c'est sur des toutes petites choses, quand la mousse va se perdre un peu à côté de la scène. Enfin, ils réagissent pas forcément sur les gros effets. Donc ça, moi, je trouvais ça très intéressant à voir, déjà, la communication avec ce public-là. La musique était plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé la composition musicale. Alors, je sais pas si j'ai bien fait, mais je crois qu'à la fin, j'ai reconnu Colin Stenson, qui est donc une forme de saxophoniste expérimental. En tout cas, c'est très, 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 très proche de ça. Et j'étais assez étonné et ravi de voir ça dans un spectacle de jeunesse. Moi, je trouve qu'il y a quelques facilités quand Jeanne Hibbert, en fait, finalement, déploie ce champ sémantique de la mousse pour qu'elle devienne à la fois nuage, à la fois la mousse de la mer ou l'écume de la mer. On finit à la montagne. Enfin bon, on passe par tous ces paysages, qu'on était susceptible d'attendre.
Oui, alors peut-être que aussi notre position, je crois qu'on a un peu vécu la même expérience, on a aussi beaucoup regardé les enfants regarder ce spectacle, parce que si certes il n'y a pas d'effet de surprise, il y a une vraie déclinaison de tous les possibles, par rapport à cette matière et cet espace de jeu et cette légèreté à tout point de vue du spectacle qui du coup va pas mal tourner. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi j'ai remarqué ceux qui étaient devant, à côté de moi, ont été attentifs au début pas très longtemps. Après, on commençait à regarder et se font rattraper par des séquences qui sont pas forcément, vous le disiez, les plus spectaculaires, mais le simple fait de prendre un bloc de mousse, de souffler, enfin d'avoir construit une forme igloo et de souffler, de faire la neige et de se blottir comme dans un igloo, tout d'un coup, ça rattrape. C'est effectivement là qu'on a il a froid et c'est de la neige. On a presque l'audio description du spectacle, un spectacle muet. Et c'est plutôt touchant. À partir de 2 ans, c'est suffisamment rare. Et puis, Jeanne Hibbert est vraiment quelqu'un dont je suis le travail depuis un moment, qui a beaucoup travaillé sur la marionnette. Il y aura d'ailleurs une apparition la forme la plus simple de la marionnette à la toute fin du spectacle. On ne va pas tout révéler. Un petit mot encore, Philippe Noisette et Florian Guettet.
Dire que un chorégraphe, Yann Raballon, a travaillé et il apporte quand même beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, la mousse est envahissante, par excellence. et donc, comment faire en sorte qu'un corps corps surnage sans être simplement un corps planté comme ça dans la mousse, dans le décor. C'est très intéressant.
Oui, aussi le spectacle, Joanne Hébert et Yann Rabanan. Florian Huyette.
Oui, d'autant que la chorégraphie est tout à propos, hein, puisqu'on a la rondeur de la bulle, on a le glissement du savon. Enfin, on travaille sur la matière. Moi, ça m'a rappelé en fait quelque chose que j'ai découvert il y a peu, qui sont des petites vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais
c'est fait.
Alors, en tout cas, sur ces chaînes-là, qui s'appellent les ASMR. En fait, c'est des sortes de vidéos de relaxation dans lesquelles on met juste des interactions avec la matière très douces. Alors, plonger la main dans un tas de graines, une plume qui glisse sur un papier, un pinceau qu'on passe délicatement sur un morceau de scotch. Et en fait, et c'est un grand succès. Des millions de gens voient ça.
Ça a marché sur vous?
Eh ben, moi, j'ai eu un peu cet effet-là. Alors, pas anesthésiant, mais en tout cas, calmant, adoucissant. Donc, du coup, vraiment, c'est une pièce qui certainement ne fait pas de mal. Et je voudrais quand même préciser qu'effectivement, Joanne Hébert, qu'on a souvent l'occasion de voir dans un rapport au texte très présent, là, il a décalé ou différé, finalement, cette présence du texte avec ce petit livret qu'on nous distribue, qui sont donc trois commandes à des auteurs, pour continuer le spectacle, pour voir ce que ça peut créer en termes de stimulation de l'imagination. Et effectivement, je crois que c'est ça la grande idée ou de ce spectacle, si tant est qu'elle soit grande, c'est d'avoir réalisé, on va dire, l'analogie entre la plasticité de cette matière et la plasticité de l'imagination, sa capacité à sculpter ou à créer des images en permanence.
Voilà, c'était Marie Nimier, citons les autres auteurs, Thomas Gornet et Alexandra Lazarescu pour ces petits textes qui accompagnent ce petit bain de Joanne Hébert et Yann Rabanan jusqu'au 23 avril au Théâtre Paris-Villette, puis au Centre culturel Jean Audremont à la Courneuve, à la Maison du Peuple de Pierre Fitte sur Seine. Ce sera au mois de mai, et puis du 11 au 18 juillet au Festival Théâtre Enfant, Théâtre Enfant et tout public, c'est le titre complet. Ce sera à Avignon, puis d'autres dates, bien sûr, à suivre la saison prochaine. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Lou Yuifeng par Boris Pinault, le jeu de la dispute rappelle d'abord du jeu de vendredi soir, Justine Dibling, question-réponse.
Le designer industriel britannique Ross Lovegrove a travaillé pour une grande compagnie aérienne, laquelle? Et la réponse est la compagnie British Airways.
Très bel accent. Et on fait gagner ce soir des invitations pour une présentation du spectacle Bal de Brecht, mise en scène Christine Le Tailleur à la Colline, à Paris. La représentation, enfin les places sont à gagner pour le samedi 22 avril à 20h30. Quelle est la question?
Quel âge avait Brecht quand il a écrit la pièce Bal dans sa première version?
Votre réponse avec vos coordonnées postales, envoyez à auditeur fc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Et ce soir, le coup de fil de la dispute est passé à la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée, où se jouera le week-end prochain la série de performances Exquise Esquisse dans le cadre du Pulp Festival. Louis Fang, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes scénariste de bande dessinée notamment et vous orchestrez pour la troisième année consécutive ces Exquises Esquisses dans lesquelles des artistes improvisent des joutes dessinées au rythme d'une musique live. On retrouvera notamment sur scène François Olislager, Florence Questac, Philippe Dupuis ou encore Marion Montaigne. Vous proposez donc aux dessinateurs de quitter la solitude de l'atelier pour entrer sur scène. Pour vous, le lien entre le dessin et la scène, il est évident, il est naturel?
Il n'est pas du tout naturel et c'est ça qui est bien. C'est justement d'essayer de trouver des formes nouvelles avec en mélangeant des choses qui a priori ne vont pas ensemble. De voir un dessin en train de se faire, c'est toujours magique, quel que soit le dessin. C'est quelque chose qui fonctionne toujours. C'est fascinant à voir. Il y a une grâce, un effet de suspense, une tension. Soupçonnez pas avant d'essayer de faire passer le dessin sur scène. Pour le public, il y a un effet de communion, de miracle presque. Le fait d'assister à quelque chose d'inédit, quelque chose qui va disparaître aussi. Enfin, c'est vraiment l'essence du spectacle vivant. De voir quelque chose de petit, de miniature, agrandi sur un grand écran et de pouvoir le partager à plusieurs, c'est quelque chose de magique.
Alors les dessinateurs improviseront sous contrainte dans la grande tradition de Lou Bapo, l'ouvroir de bande dessinée potentiel fondé au début des années 90. Comment s'articuleront les défis sur scène ?
On a constaté que le temps d'une chanson, c'est-à-dire 3-4 minutes, c'est le temps idéal pour faire un dessin. Et le fait de mélanger dessin et musique amène une dynamique pour le dessin et la musique qui crée quelque chose qui est très bien, qui fonctionne très bien. Donc on a des épreuves où c'est la musique qui impose le dessin et vice-versa.
J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des véritables défis du type compléter un motif ou compléter le dessin de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on tombe sur un défi quand on est sur scène ? Est-ce que c'est une roue qui tourne ? Est-ce que c'est... Comment ça se passe ?
Oui, il y a tout. En fait, il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a des épreuves un peu plus longues, donc qui durent 3-4 minutes, le temps d'une chanson. Et puis, il y a des mini-gages en fait, qu'on donne comme ça, arbitrairement à tel ou tel dessinateur, à l'aide d'une roue qu'on fait tourner. C'est des gages combinés, enfin, c'est des choses assez basiques, un peu stupides, mais qui fonctionnent toujours, du style de dessiner la carte de France, les yeux bandés, avec le pied gauche. Et c'est très bête, mais ça donne toujours quelque chose de drôle et d'intéressant. L'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux, c'est d'arriver à des moments vraiment de pure improvisation. C'est dans ces moments-là de non-contrôle qu'on obtient des choses vraiment, vraiment bien, quoi, intéressantes en termes de spectacle. Alors, et mine de rien, en termes de dessin, ça donne aussi des choses étonnantes.
Cette série de performances s'inspire de l'émission culte Tac au Tac, diffusée il y a plus d'une trentaine d'années sur l'ORTF. Vous aviez ressorti quelques archives de l'INA pour préparer la première édition.
Oui, on a regardé comment ils faisaient. Alors, il se trouve qu'il y a du montage dans Tac au Tac, et puis c'est une émission de télé, donc vraiment le contexte est très différent, et le rythme est très différent, et on s'est aperçu que de reproduire à l'identique, ça ne crée pas un rythme intéressant pour un spectacle. Donc, il fallait vraiment le réadapter, réinterpréter des choses, mais on a gardé... je sais pas, le principe du cadavre exquis, le principe de prolonger un dessin, puis j'ai inventé d'autres épreuves.
Alors vous évoquiez tout à l'heure cette histoire du dessin comme une histoire de trace justement, et le fait que la performance par nature est éphémère. Vous évoquiez le rapport entre les deux. Je me demandais par exemple très concrètement dans cette idée-là, qu'est-ce qu'il advient des dessins après une séance ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. En général, on affiche les dessins en fin de chaque séance sur un mur, ce qui fait qu'à la fin des 6 séances, on a les murs qui sont constellés de dessins. Les dessinateurs sont autorisés à dessiner partout aussi. Il y a une scénographie, il y a des accessoires et des meubles. Les dessinateurs peuvent dessiner sur tous les meubles, les objets, et même sur les spectateurs s'ils sont consentants. Et ils sont consentants à chaque fois. Donc il y a des traces partout. Alors les dessins, on peut les donner pendant des enchères à la fin des séances, où les spectateurs proposent tout ce qu'ils veulent sauf de l'argent pour obtenir des dessins. Donc ils peuvent proposer, on a eu des chansons a cappella, on a eu des poèmes, on a eu des massages, on a eu tout ce que les gens peuvent proposer.
Eh bien alors on se tient prêt, on aiguise nos crayons. Merci beaucoup Louis Fong. La série de performances Exquise Esquisse se jouera donc le week-end prochain, les 22 et 23 avril, à la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée. Il y aura donc 6 séances inédites et on signale la séance spéciale du dimanche 23 avril à l'occasion des résultats du premier tour des élections présidentielles. Merci et belle soirée à vous.
Merci.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner bien sûr au podcast, vous le faites toujours plus nombreux, merci à vous. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Thierry Chaise, Julien Gester et Antoine Guillot. À notre affiche 11 minutes de Jerry Skominowski, Les Initiés de John Trengrove et Ikari XB1 de Jindrich Polak. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.